Je vous montrerai la confession ainsi que la lettre de frère Jourdain. Tout cela est en ma possession, dit Colas de Rienzi. Le tribun parla pendant 4 heures pleines. Il n'en fallait pas moins, et d'abord pour instruire Giannino d'événements vieux de 40 ans qui faisaient partie de l'histoire du royaume de France. La mort de Marguerite de Bourgogne, le remariage du roi Louis X avec Clémence de Hongrie. Mon père avait été de l'ambassade qui alla chercher la reine à Naples. Il me l'a plusieurs fois raconté, dit Giannino. Il faisait partie de la suite d'un certain comte de Bouville. Le comte de Bouville, dites-vous. Ah, tout se confirme bien. C'est ce même Bouville qui était curateur au ventre de la reine Clémence, votre mère, noblissime seigneur, et qui alla faire prendre, pour vous nourrir, la dame de Cressay au couvent où elle venait d'accoucher. Elle a raconté cela précisément. À mesure que le tribun parlait, son visiteur se sentait perdre la raison. Tout était retourné. Les ombres devenaient claires, le jour devenait noir. Giannino obligeait souvent Rienzi à revenir en arrière, comme lorsque l'on reprend une opération de calcul trop compliquée. Il apprenait d'un seul coup que son père n'était pas son père, que sa mère n'était pas sa mère, et que son père véritable, un roi de France, assassin d'une première épouse, avait fini lui-même assassiné. Il cessait d'être le frère de lait d'un roi de France mort au berceau, il était ce roi même soudain ressuscité. On vous a toujours appelé Jean, n'est-ce pas? La reine, votre mère, vous avez donné ce nom à cause d'un vœu, Jean ou Giovanni, qui fait Giovannino ou Giannino. Vous êtes Jean Ier le posthume. Le posthume, une appellation sinistre, un de ces mots qui évoquent le cimetière et que les Toscans n'entendent pas sans faire les cornes avec leur main gauche. Brusquement, le comte Robert d'Artois, la comtesse Mao, ces noms qui appartenaient au grand souvenir de son père, non, pas son père, enfin l'autre, Guccio Baglioni, surgissaient dans le récit d'un tribun chargé de rôles terribles. La comtesse Mao, qui avait déjà empoisonné le père de Giannino, oui, le roi Louis, avait entrepris de faire périr également le nouveau-né. Mais le comte de Bouville, prudent, avait échangé l'enfant de la reine avec celui de la nourrice, qui d'ailleurs s'appelait Jean également. C'est ce dernier qui a été tué et enterré à Saint-Denis. Et Giannino éprouva comme une sensation d'épaississement de son malaise, parce qu'il ne pouvait se déshabituer si vite d'être Giannino Baglioni, l'enfant du marchand siennois, et que c'était comme si on lui annonçait qu'il avait cessé de respirer à l'âge de 5 jours, et que sa vie depuis, toutes ses pensées, tous ses actes, son corps même, n'étaient qu'illusion. Il se sentait s'évanouir, s'emplir d'ombre, se muer en son propre fantôme. Où se trouvait-il vraiment? Sous une dalle de Saint-Denis ou bien ici, au Capitole? Elle m'appelait parfois « mon petit prince », murmura-t-il. « Qui est cela ?»« Ma mère, je veux dire la dame de Cressay, quand nous étions seuls. » Je croyais que c'était un mot comme les mères de France en donnent à leurs enfants. Et elle me baisait les mains, et elle se mettait à pleurer. Ah, que de choses me reviennent. Et cette pension qu'envoyait le comte de Bouville, et qui faisait que les oncles Cressay, le barbu et l'autre étaient plus gentils avec moi les jours où la bourse arrivait. Qu'étaient devenus tous ces gens? Ils étaient morts pour la plupart et depuis longtemps. Mao, Bouville, Robert d'Artois. Les frères Cressay avaient été armés chevaliers la veille de la bataille de Crécy sur un jeu de mots du roi Philippe VI. Il devait être déjà assez vieux. Mais alors, si Marie de Cressay n'avait jamais voulu revoir Guccio Baglioni, ce n'était pas qu'elle le détestât comme celui-ci le prétendait amèrement, mais pour garder le serment qu'on lui avait fait prononcer par force en lui remettant le petit roi sauvé. Par crainte de représailles également sur elle-même ou sur son mari, expliqua Colas de Rienzi. Car ils étaient mariés. Secrètement et réellement par un moine. Cela aussi, elle l'a dit dans sa confession. Et un jour, Baglioni est venu vous enlever, quand vous aviez 9 ans. Je me souviens bien de ce départ. Et elle m'a... La dame de Cressay, elle ne s'est jamais remariée?
Jamais. Puisqu'elle avait contracté union.
Lui non plus ne s'est pas remariée?
Giannino resta songeur un moment, s'entraînant à penser à la morte de Cressay, aux morts de Campagny, comme à des parents d'adoption. Puis soudain, il demanda « Pourrais-je avoir un miroir ?»«
Certes, » dit le tribun avec une légère surprise.
Il frappa dans ses mains et donna un ordre à un serviteur.
« J'ai vu la reine Clémence une fois, précisément quand je fus emmené de Crécey et que je passais quelques jours à Paris, chez l'oncle Spinello. Mon père, adoptif, ainsi que vous dites, me conduisit la saluer. Elle m'a donné des dragées. Alors c'était elle, ma mère ?»
Les larmes lui montaient aux yeux. Il glissa la main sous le col de sa robe, sortit un petit reliquaire pendu à une cordelette de soie.
Cette relique de Saint-Jean venait d'elle.
Il cherchait désespérément à retrouver les traits exacts du visage de la reine, pour autant qu'ils se fussent inscrits dans sa mémoire d'enfant. Il se rappelait seulement l'apparition d'une femme merveilleusement belle, tout en blanc, dans le costume des reines veuves, et qui lui avait posé sur le front une main distraite et rose.
Et je n'ai pas su que j'étais devant ma mère. Et elle, jusqu'à son dernier jour, a cru son fils mort.
Ah, cette comtesse Mao était une bien grande criminelle, pour avoir non seulement assassiné un innocent nouveau-né, mais encore jeté dans tant d'existences le désarroi et le malheur. L'impression d'irréalité de sa personne avait à présent disparu chez Giannino, pour faire place à une sensation de dédoublement tout aussi angoissante. Il était lui-même et un autre, le fils du banquier siennois et le fils du roi de France. Et sa femme, Francesca, il y pensa soudain. Qui avait-elle épousé ? Et ses propres enfants, alors ils descendaient de Hugues Capet, de Saint-Louis, de Philippe le Bel. Le pape Jean XXII devait avoir eu vent de cette affaire, reprit Cola de Rienzi. On m'a rapporté que certains cardinaux dans son entourage chuchotaient qu'ils doutaient que le fils du roi Louis X fût mort. Simple présomption, pensait-on, comme il en court tellement et qui ne paraissent guère fondés jusqu'à cette confession in extremis de votre mère adoptive, votre nourrice, qui fit promettre au moine Augustin de vous rechercher et vous apprendre la vérité. Toute sa vie, elle avait par son silence obéi aux ordres des hommes, mais à l'instant de paraître devant Dieu, et comme ceux qui avaient imposé ce silence étaient décédés sans l'avoir relevé du serment, elle voulut se délivrer de son secret. Et frère Jourdain d'Espagne, fidèle à la promesse donnée, s'était mis à la recherche de Giannino. Mais la guerre et la peste l'avaient empêché d'aller plus loin que Paris. Les Ptoloméines n'y tenaient plus comptoir. Frère Jourdain ne se sentait plus en âge d'entreprendre de longs voyages.
« Il remit donc confession et récit, reprit Rienzi, à un autre religieux de son ordre, le frère Antoine,
homme d'une grande sainteté qui a accompli plusieurs fois le pèlerinage de Rome et qui m'était venu visiter précédemment. C'est ce frère Antoine qui, voici 2 mois, se trouvant malade à Porto Venere, m'a laissé connaître tout ce que je viens de vous apprendre, en m'envoyant les pièces de son propre récit. J'ai un moment hésité, je vous l'avoue, à croire toutes ces choses. Mais à la réflexion, elles m'ont paru trop extraordinaires et fantastiques pour avoir été inventées. L'imagination humaine ne saurait aller jusque-là. C'est la vérité souvent qui nous surprend. J'ai fait contrôler les dates, recueillir divers indices et envoyer à votre recherche. Je vous ai d'abord adressé ces émissaires qui, faute d'être porteurs d'un écrit, n'ont pu vous convaincre de venir à moi. Et enfin, je vous ai mandé cette lettre grâce à laquelle, mon grandissime Seigneur, vous vous trouvez ici. Si vous voulez faire valoir vos droits à la couronne de France, je suis prêt à vous y aider. » On venait d'apporter un miroir d'argent. Giannino l'approcha des grands candélabres et s'y regarda longuement. Il n'avait jamais aimé son visage. Cette rondeur un peu molle, ce nez droit mais sans caractère, ses yeux bleus, sous des sourcils trop pâles. Était-ce là le visage d'un roi de France ? Giannino cherchait dans le fond du miroir à dissiper le fantôme, à se reconstituer. Le tribun lui posa la main sur l'épaule.
« Ma naissance aussi, dit-il gravement, fut longtemps entourée d'un bien singulier mystère. J'ai grandi dans une taverne de cette ville, j'y ai servi le vin au portefeuille. Je n'ai su qu'assez tard de qui j'étais le fils. »
Son beau masque d'empereur, où seule la narine droite frémissait, s'était un peu affaissé.